France Culture. Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Alors que deux suspects ont été interpellés pour le casse au Louvre le dimanche 19 octobre, les bijoux dérobés sont toujours introuvables, même ce soir. Ces bijoux appartenaient à ce qu'il restait des joyaux de la couronne, une collection de bijoux initiés par François Ier, transmise de souverain en souverain, qui chacun remontait les pierres sur de nouvelles pièces, puis se les transmettait. Très chargés politiquement, symboliquement, ils ont longtemps illustré le pouvoir de la monarchie et représentent un héritage encombrant après la Révolution française qui occasionnera des débats longs, houleux, de plusieurs années sous la Troisième République. Alors, comment la République s'est-elle emparée de cet héritage? Comment les bijoux sont passés des mains des monarques aux vitrines du Louvre? Une invitée ce soir pour nous éclairer, Sophie German. Bonsoir et bienvenue.
Bonsoir, merci de me recevoir.
C'est un plaisir, vous êtes doctorante en histoire de l'art à l'université de Neuchâtel et à l'école du Louvre. Votre thèse porte sur l'héritage des joyaux de la couronne pour la Troisième République. À mes côtés, pour vous interviewer, Julien Bisson. Bonsoir Julien.
Bonsoir Quentin.
Vous êtes directeur des rédactions de l'hebdomadaire Le 1. Bienvenue à vous deux dans Question du soir.
C'est pas simplement le vol des bijoux, c'est aussi la violation du Louvre. Et le Louvre est d'une certaine manière un espace tout à fait sacré. Et c'est en ce sens-là aussi qu'il y a quelque chose d'assez différent par rapport justement au vol qu'il pourrait y avoir, même à la Banque de France en quelque sorte. Parce qu'en fait, effectivement, il y a un élément de sacralisation dans le musée qui s'est développé et qui a été directement associé à tous les éléments, on pourrait dire, d'une certaine religion politique qui s'est développée depuis. Puis la fin de la monarchie, pourrait-on dire, avec la création du Louvre, avec les collections du roi, avec effectivement potentiellement aussi une partie des bijoux, etc. Et progressivement l'utilisation par la nation, et ils sont simplement, par exemple, à l'utilisation par Emmanuel Macron du Louvre, qui montre évidemment à quel point le Louvre joue ce rôle.
Le muséologue François Mérès, il était l'invité de Questions du soir la semaine dernière. Il évoque la sacralité du lieu qui a été, j'allais dire, pénétré par les bandits, par les voleurs. Et dans le même temps, comment expliquer la sacralité de ces bijoux? Vous, en tant qu'historienne, comment est-ce que vous l'expliquez? Est-ce que ce sont peut-être des reliques parce que celles-ci ont été portées par des rois, par des reines de France?
Alors oui, je pense qu'il y a de ça. Je pense qu'on pourrait parler de reliques laïques. Quand les joyaux arrivent au Louvre en 1889, ils sont mis dans des vitrines. Ces vitrines glorifient la République française. Il y a le monogramme RF qui est inscrit sur les vitrines. Et je dirais que la Troisième République utilise en fait ces joyaux pour légitimer son propre pouvoir. Donc c'était des objets... Déjà, je pense qu'on peut, discuter un petit peu sur la symbolique des bijoux, parce que c'est des objets qui touchaient le corps. Donc, c'est pas simplement des objets qui étaient possédés par les rois, c'est des objets qui entraient directement en contact avec eux. Donc, quand on voit un bijou, d'autant plus un bijou d'un monarque, on a l'impression d'accéder à une partie du monarque. Et en ça, je pense qu'il y a quelque chose de très sacré là-dedans. Pour moi, il y a quelque chose vraiment qui se rapproche de la relique, d'une partie. Moi, quand je vais au Louvre, quand je vais dans la galerie d'Apollon, j'ai l'impression de voir une partie des rois de France quand je m'approche des vitrines. Donc, pour moi, il y a quelque chose, oui, effectivement, de très sacré. Le lieu est sacré en soi, c'est l'ancien palais des rois. Donc, la galerie d'Apollon, qui a été initiée par Louis XIV et terminée par Napoléon III, est un lieu sacré aussi. On pourrait dire qu'on est vraiment un lieu de croiser des pouvoirs, je dirais, où on met ses joyaux.
Sacralité laïque, relique laïque, Julien Bisson.
En dessous, Sophie German, ce sont 8 pièces qui ont été dérobées au Louvre. Est-ce qu'elles ont un statut particulier dans cette collection plus large des joyaux de la couronne?
Alors oui, on a beaucoup parlé de ces 8 pièces. Je pense qu'il faut bien les différencier parce qu'on parle de joyaux de la couronne, mais certaines pièces appartenaient pas à la collection des joyaux de la couronne. Quand on parle de la collection des joyaux de la couronne, on parle d'une collection étatique, de cette collection qui a été fondée par François Ier en 1530. Et en parallèle, les souverains avaient toujours leur collection personnelle. Donc certains des joyaux, tels que le diadème de la parure de la reine Marie-Amélie, appartenaient à cette collection personnelle. Et parmi les 8 pièces volées, il n'y en a que 3 qui figuraient dans la collection des joyaux de la couronne de France. Il y avait la broche dite broche reliquaire, le diadème en perles de l'impératrice Eugénie et le grand nœud de corsage.
Vous avez parlé de François Ier et d'une date 1530. Pourquoi François Ier, j'allais dire, se lance-t-il dans la constitution de cette collection, de ce qu'on appellera plus tard les joyaux de la couronne? Quelle est son intention personnelle, spirituelle, politique aussi?
Alors, il y a plusieurs théories là-dessus. D'une part, alors avant ça, il y a eu la guerre de Pavie. François Ier a été prisonnier, ses fils aussi. Il a dû payer une rançon pour récupérer ses fils. Et il n'avait pas assez d'argent, donc on dit qu'il a dû vendre certains de ses joyaux et qu'il aurait été très attristé de devoir se séparer de ses pierres. Et ensuite, suite à des accords politiques, il s'est donc marié avec la fille de Charles Quint, et on dit qu'il aurait voulu protéger une partie de ses joyaux, parce que dans les collections personnelles des souverains, les reines pouvaient repartir avec les joyaux quand les souverains décédaient. Donc, en fait, il y a cette volonté de mettre en sécurité 8 joyaux, et au-delà de ça, je pense qu'il y a vraiment une volonté de transmission, de s'imposer politiquement et de faire perdurer ses joyaux au-delà de son règne.
Transmission, c'est-à-dire qu'il y avait déjà l'idée de transmettre cette collection de souverain en souverain, bien après sa mort, des siècles après ?
Oui, il y a notamment, pour en revenir peut-être juste à François Ier, il instaure cette clause d'inaliénabilité par des lettres patentes. Donc les joyaux ne peuvent être ni modifiés ni vendus. Ça n'empêche pas leur mise en gage. On le verra, ça finance beaucoup de guerres d'ailleurs. Mais effectivement, il y a cette clause d'inaliénabilité perdure, et donc les souverains se transmettent la collection et relient. En fait, la collection relie les dynasties les unes aux autres. Et c'est ça que je trouve passionnant, c'est qu'on change de dynastie, mais la collection perdure. Donc il y a comme une sorte de fil invisible qui relie les dynasties les unes aux autres.
Julien Bisson.
Quand on pense aux souverains français, on pense évidemment à Louis XIV, le roi soleil, qui a voulu faire du prestige de la France un grand axe de son règne. Est-ce que les joyaux de la couronne, les bijoux, font partie de ces instruments de puissance pour lui ?
Oui, totalement. Le roi soleil brille, donc il brille aussi par ses diamants. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que la collection éclate vraiment, qu'elle est, c'est la collection la plus riche de tout l'Occident. Je ne peux plus vous dire exactement combien il y a de diamants à ce moment-là, mais Louis XIV, par ses vêtements aussi des joyaux, il en a jusque sur ses chaussures. Et en fait, ces joyaux deviennent vraiment une magnificence du pouvoir royal.
Vous l'avez dit, il y a un paradoxe apparent dans ces joyaux, dans cette collection. D'un côté, ils sont définis comme inaliénables, selon François Ier, et dans le même temps, ils rendent d'immenses services au royaume français. Ils alimentent notamment la défense du royaume. Ils permettent également de constituer une forme de réserve monétaire. Racontez-nous justement ces services rendus par les joyaux de la couronne.
Oui, alors ils sont mis en gage à de nombreuses reprises, notamment durant la Fronde, également pendant les guerres civiles. Catherine de Médicis va aussi mettre à de nombreuses reprises les joyaux en gage. On sait par exemple que sous Henri III, à la fin du règne de Henri III, la collection est presque inexistante. Donc il a mis en gage presque toute la collection des joyaux de la couronne de France. Et ensuite, les joyaux sont récupérés. Et donc ce que je trouve très intéressant, c'est que finalement, l'état de la collection des joyaux de la couronne de France pourrait presque être représentative de l'état de santé du royaume.
Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Comment est-ce qu'on les met en gage, ces bijoux ? À qui les confie-t-on ? Et surtout, comment les assure-t-on dans le fond ?
Alors, généralement, ils sont mis en gage auprès de banquiers. J'ai l'exemple en tête de Catherine de Médicis qui met certains diamants en gage auprès de banquiers italiens. Et généralement, ils sont récupérés les reines d'après. Ça arrive aussi que certains joyaux ne soient pas récupérés. Donc là, on voit que la clause d'inaliénabilité n'est pas respectée. Mais ce qui est très intéressant, par exemple, c'est que des joyaux ont été mis en gage sous Louis XVI ou ont été récupérés sous Louis XVIII. Donc, je trouve qu'il y a quelque chose de fascinant parce que les joyaux peuvent disparaître pendant des décennies et les prochains rois vont leur courir après pour essayer de les ramener dans la collection.
Ça nous laisse donc peut-être optimiste pour le vol du Louvre. Je voudrais vous faire entendre la voix de l'historien Alexandre Gady. Il s'exprimait dans l'émission diffusée sur France 2, Visite privée. C'était en 2016.
Donc voilà, une fois qu'ils ont réussi à fracturer ce carreau et ce volet, ils sont entrés, comme nous sortons, sur cet espace qui explique bien ce qui s'est passé, hein, puisque vous avez la façade escaladée au niveau du rez-de-chaussée avec les gros bossages, la balustrade qu'on enjambe, et ensuite on est dans cet espace merveilleux sous la colonnade, donc une sorte de loggia, qui vous isole de la place assez rapidement avec le recul, vous voyez. Il n'y a pas de possibilité d'en bas de voir ce qui se passe en haut. Il fait nuit noire et ils vont pouvoir opérer très tranquillement 4 fois de suite. C'est ça qui est incroyable. Et tout simplement, les archives racontent l'histoire de cette bande de loulous qui ont fait ce casse. Tout ça, c'est un fait divers. Un fait divers incroyable, rendu possible, au fond, parce que, à ce moment-là, Paris, désorganisé par la Révolution française, est une sorte d'espace où tout est possible.
D'autres scélérats, Julien Bisson, d'autres bandits dans le chaos parisien de 1792.
Ce qu'on vient d'entendre, c'est le récit du vol des bijoux de la couronne en 1792. Expliquez-nous, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, Sophie Germain, et que vont devenir les bijoux ?
Oui, alors à ce moment-là, les joyaux de la couronne sont exposés aux garde-meubles. Ils ont été déposés, du moins une partie volontairement par Louis XVI. Le garde-meuble est accessible un jour par semaine. C'est la première fois qu'ils sont exposés au public, donc je pense que c'est un moment important dans l'histoire de la collection. Et le garde-meuble est volé, pillé durant plusieurs nuits par des voleurs, 3 nuits je crois. Et l'entièreté de la collection est donc volée.
Ce ne sont pas 8 pièces à ce moment-là.
Non, ce ne sont pas 8 pièces à ce moment-là. Je n'ai plus les chiffres en tête, mais la collection est quand même assez considérable. Et puis, on retrouvera une partie des joyaux dans le régent, je crois, 2 ans après. Ce qui est très intéressant, c'est qu'à ce moment-là, il y a le diamant bleu de Louis XIV qui est volé. Celui-ci, on ne le retrouvera pas. Enfin, on le retrouvera des années plus tard en Angleterre. Il est retaillé et il est aujourd'hui exposé à Washington. Il a été retaillé. Donc, certains diamants ont suivi des routes différentes. Certains ont regagné les collections, mais plusieurs ont été perdus et n'ont jamais été retrouvés après ce vol.
Parlez-nous, Sophie Germain, de Napoléon Bonaparte. Le pauvre n'a pas de sang royal. Quel usage donc fait-il de ces joyaux de la couronne ?
Alors, c'est très intéressant parce que après le vol du garde-meuble, les joyaux ne sont plus utilisés durant un certain temps. Napoléon arrive au pouvoir et donc il voit dans les joyaux l'occasion d'affirmer sa dynastie, d'affirmer son pouvoir. Donc les joyaux sont remontés, les joyaux sont réutilisés et puis, comme je l'ai dit, permettent vraiment d'inscrire la dynastie des Bonaparte dans la dynastie des rois de France.
Et d'incarner la forme de continuité du pouvoir français. Julien Bisson.
Oui, on a beaucoup parlé pendant du vol de la couronne de l'impératrice Eugénie. Justement, est-ce que Napoléon III va aussi prolonger cet investissement symbolique dans les joyaux de la couronne ?
Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs pour ça qu'est fabriquée... il y a la couronne de l'impératrice Eugénie, mais il y avait aussi la couronne de Napoléon III qui a été fondue par la Troisième République, qui était la même, mais un petit peu plus grande. Et ces deux couronnes, par exemple, sont fabriquées pour l'exposition universelle de 1855. Donc, Napoléon III et Eugénie ne sont jamais sacrés avec ces couronnes. Donc, c'est vraiment dans le but d'exhiber la richesse et le pouvoir de la France à travers ces joyaux de la couronne.
Alors on en vient, Sophie Germain, au cœur de notre sujet, au cœur de votre thèse, par ailleurs celle qui est en cours de rédaction par vos soins. Que fait la République en 1870, au moment de la chute de Napoléon III ? Que fait-elle de ses bijoux ? Quelles questions se posent-elles ? Est-ce que c'est un héritage compliqué à assumer ? Est-ce que c'est un moyen aussi peut-être de se faire un peu d'argent pour financer des œuvres sociales notamment ?
Alors, c'est un héritage très embarrassant. J'aime bien prendre la comparaison de nos objets de famille. Quand on hérite d'objets de famille, on ne sait pas très bien quoi en faire. Il y a une sorte de culpabilité à s'en débarrasser. Mais voilà, la République se trouve face à ce dilemme parce que les joyaux de la couronne symbolisent profondément l'histoire de la France, l'identité de la France. Donc, difficile de se débarrasser de son histoire et de son identité. Et en même temps, garder les joyaux de la couronne signifie qu'il y aurait encore une possibilité d'une restauration monarchique. Donc les débats vont être très compliqués. Ils vont commencer en 1870. On va d'abord proposer de vendre les joyaux de la couronne pour reconstruire les villes détruites par l'armée allemande. Et puis il y aura ensuite d'autres initiatives, dont des initiatives sociales, notamment par Benjamin Raspail, qui propose de financer une caisse des invalides du travail à travers la vente des joyaux de la couronne de France.
Le meilleur moyen de ne pas être embarrassé, c'est peut-être de ne pas hériter. Alors, Julien Bisson.
Alors, en 1882, une commission va procéder à l'expertise de ces joyaux de la couronne. Question, comment est-ce qu'on les sépare ? Qu'est-ce qui est considéré comme historique, qui mérite d'être conservé et qu'est-ce qui peut être revendu, voire fondu, comme vous avez évoqué, pour la couronne impériale de Napoléon III ?
Oui, alors c'est une question qui m'a beaucoup intéressée. Moi, j'y vois un choix très politique parce que il y a eu, si on suit tous les débats, il y a eu différentes propositions. D'abord, on proposait de garder certains objets. Ensuite, on réduit ce choix et dans les premières propositions, il y avait encore des diadèmes, des couronnes. Et puis, plus on avance dans le temps, plus ces objets très symboliques sont écartés en fait des propositions. Donc, je pense que les couronnes ont été écartées parce que, par exemple, elles symbolisaient trop la monarchie. Et puis, je pense qu'on a... Alors, évidemment, on décide de garder le régent, qui est un diamant historique. Mais les choix, disons... Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas expliquer complètement la rationalité de ces choix. Je pense qu'on a choisi des pièces qui ne présentaient aucun danger pour la République.
Je vous propose, Sophie German, une déambulation, une visite au sein du musée de l'École des Mines. Est-ce que les joyaux sont redevenus de simples pierres? C'est la question que vous souleviez. Élément de réponse.
Je vous présente dans ces trois vitrines les topazes, les émeraudes, les améthystes, qui font partie des joyaux de la couronne de France. Alors pendant très longtemps, ces pièces n'ont pas été exposées. Elles n'avaient pas effectivement un intérêt minéralogique majeur. Puis il y avait peut-être aussi un souci de protection. Donc elles sont restées, pour la plupart d'entre elles, dans un coffre. Donc on a choisi très récemment, c'est en 2016 que ces vitrines ont été créées, de le faire partager au plus grand nombre et de montrer ces pierres qui ont été, alors qui sont plutôt impériales, puisque certaines ont été sur des parures de l'impératrice Marie-Louise, les topazes, les améthystes, et d'autres sur la couronne du sacre de Napoléon III, ça c'est pour les émeraudes.
Pourquoi la République, Sophie de German, décide finalement de donner à voir ces pièces-là? Pourquoi est-ce qu'on décide à un moment qu'il y a une valeur peut-être esthétique, sentimentale à, j'allais dire, mettre ces objets précieux, royaux, derrière des vitrines?
Alors, je pense qu'il y a un double message. Le premier, il montre que la France est une nation puissante de par son histoire. Et le deuxième, qui est, si on peut voir ces objets dans une vitrine, c'est bien que la monarchie n'existe plus.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Si vous voyez une couronne exposée dans une vitrine, elle n'est pas sur la tête d'un roi. Donc, pour moi, c'est ça, c'est une manière de mettre... La monarchie au musée, d'enterrer la monarchie, si vous voulez, où on a presque cette impression, il y a une photographie de 1890 qui circule, où on voit cette vitrine, on a l'impression d'un reliquaire. Donc on a vraiment l'impression que ces objets sont des objets, enfin, on voit que ce sont des objets qui ne seront plus utilisés.
Donc lorsque la République met au musée, elle solde d'une part de l'histoire de France, et en l'occurrence l'histoire monarchique de France?
Oui. Elle solde ça et elle légitime son propre pouvoir en mettant ces objets sous vitrine, parce qu'on ne va pas ressortir des objets d'un musée. Donc pour moi, c'est le message sous-jacent. Et par rapport aux pierres qui sont envoyées à l'école des mines et au muséum, le message est différent. Les pierres redeviennent des spécimens. Donc les pierres ne sont plus les joyaux de la couronne de France, les pierres sont... des pierres.
Julien Bisson, retour dans l'histoire et cette fois-ci à l'année 1887.
Oui, en 1887, on pense encore que ces pierres ne sont pas que des pierres, ce sont quand même des pierres précieuses qui ont une certaine valeur et donc on va mettre en place une vente aux enchères d'une partie de ces joyaux de la couronne et ça va être un vrai fiasco. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi cette vente aux enchères n'arrive pas du tout à trouver preneur et vraiment à très peu de revenus financiers?
Alors oui, c'est un fiasco total déjà dans l'organisation parce que elle est organisée donc par la Troisième République qui n'a pas les connaissances quant à la collection des joyaux de la couronne de France qui est perdue dans les inventaires. Donc il y a déjà énormément d'erreurs historiques dans la dénomination des pierres, dans celles qui sont vendues. Et puis il y a un grand nombre de diamants qui arrivent en même temps sur le marché et qui fait donc chuter, disons, le cours du diamant. Et effectivement, je crois qu'elle va rapporter environ 6 millions, mais elle aurait pu en rapporter 3 fois plus. Donc c'est un fiasco total.
Une dimension, j'allais dire, volontaire dans ce fiasco organisé par la République, car dans le fond, elle tenait peu, vous l'avez dit, à cet héritage, à ces objets, à ces reliques, selon certains. Est-ce que ce fiasco est pensé, organisé par la République, j'allais dire, pour se débarrasser, pour bazarder même ces reliques monarchiques?
Oui, bien sûr. Pour moi, il y a aussi un message à travers cette vente aux enchères, parce que mettre en musée ne suffit pas. Quand une telle collection est vendu, les objets redeviennent des objets de commerce. Donc on leur enlève cette dimension sacrée, si vous voulez.
Julien Bisson.
Est-ce que dans les siècles qui vont suivre, en tout cas jusqu'à nous, la République va essayer de racheter des joyaux de la couronne, va essayer de reconstituer cette collection qui a pu être dispersée au moment du début de la Troisième République?
Oui, tout à fait. D'ailleurs, la plupart des pièces qui ont été volées proviennent de cette reconstitution plus tardive. Donc, dans les années 80, notamment le diadème de l'impératrice Eugénie, le diadème en perles qui a été volé, a été racheté par le Louvre en 1982. Et dans le début des années 2000 aussi, la France avait conscience finalement qu'elle avait perdu un patrimoine énorme. Et le Louvre, quand c'était possible, a racheté ces pièces, évidemment.
Vous nous avez proposé, en préparant cette émission, Sophie German, de lire quelques réactions de visiteurs qui se sont rendus au Louvre pour justement s'approcher de ces joyaux de la couronne. Est-ce que vous pourrez nous lire certaines de ces réactions que vous avez récoltées et retranscrites ?
Oui, alors, une citation qui date de 1889. « J'aime l'éclat de l'or et de l'argent, le feu des diamants et le reflet des perles. » Un instinct me ramène chaque jour dans la galerie où sont exposés les bijoux. C'est là que j'ai vu avant la foule le gros diamant de 180 carats. Je ne sais pas ce qui m'a le plus ébloui de sa pure beauté ou de la fortune qu'il représente. Jamais encore je n'avais tenu entre deux doigts tant de millions et de lumière.
Voilà quelqu'un transpercé par la beauté, si je puis dire. Sophie German, dans le même temps, il faut faire un constat, j'allais dire, c'est qu'une large part des Français, lorsqu'ils ont appris le vol de ces joyaux de la couronne, on a également appris l'existence. Comment comprendre cet oubli progressif à travers les âges, à travers les décennies, de cette collection constituée à travers le temps?
Alors moi-même, j'ai du mal à expliquer, mais je pense que c'est parce que je suis un petit peu trop dans le sujet. Je pense que c'est peut-être lié au domaine de la joaillerie, parce que c'est un domaine, je dirais, qui a été un petit peu oublié. Tout comme les arts décoratifs, on s'est beaucoup intéressé aux beaux-arts dans le domaine de l'histoire de l'art, mais les bijoux ont été quelque peu mis de côté. Et je dirais que il y a eu un regain d'intérêt ces dernières années.
C'est une relégation de la joaillerie, dans le fond ? Dans l'histoire de l'art, c'est cela qui a été mis de côté à travers la mise de côté des bijoux.
Je pense qu'il peut y avoir de ça, et sinon, d'une manière peut-être plus générale, le problème de s'intéresser à son propre patrimoine. Souvent c'est ça. Ce qui nous rattache à notre histoire, ce n'est pas forcément les choses auxquelles on s'intéresse, je dirais.
Julien Bisson.
On a été frappé quand, après le vol qui a été commis au Louvre, par l'estimation de ces 8 pièces, estimation faite à 88 millions d'euros. Finalement, quelle est la plus grande valeur de ces joyaux qui sont encore aujourd'hui présentés au Louvre? Est-ce que c'est une valeur financière, une valeur esthétique, symbolique, historique? Vous parliez du patrimoine.
Alors oui, certainement elle est financière, mais elle est surtout historique et symbolique. Je dis financière parce qu'on sait que le Régent et le Sancy figurent parmi les plus beaux diamants du monde, donc forcément ils ont une valeur financière, mais elle est surtout historique. Au Louvre, il reste un des premiers joyaux réunis par François Ier, le Côte de Bretagne, qui est un spinel qui a été retaillé en dragon, qui est vraiment... C'est une splendeur. Et pour moi, il y a quelque chose d'absolument fabuleux de se dire que cet objet a traversé les siècles, a été mis en gage, vendu, perdu, retaillé, retrouvé et qu'on peut le voir aujourd'hui. Ça m'éblouit.
Vous avez rappelé, Sophie German, ce qui reste au Louvre des joyaux de la couronne. Que reste-t-il en France et au-delà d'ailleurs de ces joyaux en général dans les collections privées? Est-ce que le Louvre a réussi à racheter l'essentiel de cette collection ou bien elle demeure disséminée à travers la géographie?
Alors non, elle est toujours disséminée. Malheureusement, certaines pièces ont peut-être été démontées après la vente de 1887. On n'a pas toujours la trace, mais de temps en temps, il y a quand même des joyaux royaux qui ressurgissent sur le marché de l'art. Ça a été le cas par exemple en 2016, je crois, à Genève, le Grand Mazarin, un diamant qui a appartenu au cardinal Mazarin, qui a été vendu pour 14 millions, je crois. De temps en temps, des objets qui ont appartenu à Marie-Antoinette aussi. Donc, ça arrive que parfois des objets ressurgissent. Certains sont aussi localisés dans des collections, on sait où ils sont, et d'autres, on a perdu leurs traces, malheureusement.
Merci beaucoup, Sophie German. Vous nous avez donné envie de nous intéresser un peu plus et à nouveau à ces bijoux de la couronne et à cette partie du patrimoine français et nationale. Julien Bisson, si l'on se rend cette semaine en librairie, en kiosque pour dénicher la hebdomadaire Le 1, qu'est-ce que l'on trouvera ? Une référence au Louvre encore ?
Eh bien justement, on reste au Louvre avec les mystères du Louvre, tout ce que vous ignoriez sur le musée, squat d'artistes, œuvres volées, fantômes et intrigues, tout ce qu'on ne vous raconte pas dans les guides, c'est à découvrir dans Le 1 cette semaine.
Merci beaucoup Julien Bisson et merci encore Sophie German. Je rappelle que vous êtes doctorante en histoire de l'art à l'université de Neuchâtel et à l'école du Louvre. Votre thèse porte sur l'héritage des joyaux de la couronne par la Troisième République. Merci à vous deux d'être venus ce soir dans Question du soir.